Bienvenue. Je suis Anna Madé, une survivante d'inceste qui chante, écrit et témoigne de sa résilience pour montrer que tout est possible. De l'ombre à la lumière, du secret à la vérité ou encore de la honte au courage, je t'emmène avec moi pour te raconter comment j'ai surmonté l'impensable grâce à l'art. Mon art, la musique. Vous écoutez L'art de la résilience. Épisode 6, ma thérapie. Ou comment se libérer. C'est parti, suis-moi. Parler de thérapie ou de psychologie reste un sujet très tabou. Ça l'était déjà en 2013 et je constate que 10 ans plus tard, c'est toujours le cas. Moi, la première, j'étais persuadée que la thérapie concernait des gens avec de vrais problèmes. Mais qu'est-ce qu'un vrai problème ? N'ai-je pas moi-même de vrais problèmes ? Mon premier rendez-vous avec une psychologue a lieu avant de porter plainte. Avant de me lancer dans ce processus long, douloureux et officiel, je préfère en parler à quelqu'un de neutre et soumis à discrétion. Je prends également vraiment conscience de l'importance d'en parler à un thérapeute pour moi et ma santé mentale. C'est ainsi qu'au bout d'un certain moment, je ne cogite plus et je saisis mon portable. J'appelle et prends rendez-vous avec la psychologue du service de médecine préventive de la fac où je fais mes études. Le rendez-vous me stresse, mais je sais que je dois le faire. J'arrive au rendez-vous. La salle n'est pas très grande, mais en m'asseyant dans le fauteuil, je constate que la chaise de la psychologue est très loin. Une distance assez importante est mise entre elle et moi. Bref, ce sont des détails qui marquent car j'y suis, à mon premier rendez-vous. Ce rendez-vous passe vite. J'ai l'impression de tourner autour du pot sans décrire suffisamment le mal qui me ronge. Mes souvenirs sont flous, mais je finis par lui dire. Enfin, je sais que j'attends des solutions. Peut-être trop, peut-être des miracles. La psy me regarde fixement. Parfois, elle prend des notes. Elle reste très calme. Trop calme pour moi. À l'issue du rendez-vous, qui est rapide, je ne me sens pas particulièrement soulagée. Je sens que tout ce que j'ai raconté était difficile à entendre pour la psychologue. J'ai même peur de l'avoir choquée. J'espère qu'elle n'en fera pas de cauchemar. Pour autant, merde quoi, c'est son boulot, non ? À qui je peux en parler si même les psys ne peuvent pas m'entendre ? Je ne me souviens plus trop de la suite. Je ne pense pas l'avoir revue. Je sais qu'elle fut contactée dans le cadre de l'enquête. Les mois passent. Mon suivi psy est proche de zéro. Cette première tentative ne m'a pas du tout apporté satisfaction. Comme j'ai un traitement médical chronique, je vois régulièrement ma médecin traitante. Ma sauveuse. Et c'est ainsi qu'un jour de trop plein émotionnel, de craquage, je lui parle de tout. Elle comprend et saisit de suite la gravité de la situation. Elle met des mots sur tout cela. Les mots sont durs, mais si justes. Enfin, enfin quelqu'un du médical qui me comprend et qui va prendre soin de moi. Je lâche tout cela. Je me libère. C'est à la fois douloureux et soulageant. Cela constituera vraiment ma principale ressource thérapeutique pendant longtemps. Je mesure encore aujourd'hui la chance que j'ai eue d'avoir une médecin aussi bienveillante, calée sur ce sujet et dans une approche holistique de la situation. Auparavant, aucun médecin n'avait su ou pu m'apporter une aide. La médecin de famille ne réagissait pas lorsque, pendant toute mon adolescence, mon père insistait pour être avec nous. Lorsqu'il ne l'était pas, je sais qu'il guettait à la porte du cabinet, dont l'insonorisation laissait cruellement à désirer. Ma gynécologue n'a su comment réagir lorsque, les larmes aux yeux, en fin de rendez-vous, je lui demande s'il serait possible d'envisager un rendez-vous spécifique concernant un problème grave dont je ne sais à qui parler. Je me suis sentie très démunie à cette époque, et peu de praticiens m'ont paru informés et à même d'accompagner ce genre de trauma. Je suis jeune, étudiante, je n'ai pas les moyens financiers pour me payer des thérapies coûteuses, et je n'ai pas forcément la connaissance de leur existence par ailleurs. Un an ou deux après la plainte, je suis une initiation à l'EFT. Cela fut très difficile pour moi. Cette initiation était en petit groupe. La plupart des gens présents étaient des thérapeutes cherchant à se spécialiser dans la libération de ce trauma, dont certains étaient aussi victimes de viol. Cette technique de libération émotionnelle fonctionne par la répétition de phrases positives et ancrantes, tout en tapotant certaines zones spécifiques du corps. Je ne suis pas thérapeute, mais c'est ce que j'en ai retenu. Je pense que c'est un outil très puissant, mais pour ma part, à l'issue de cette formation, j'ai fait une immense crise d'angoisse, la plus grosse jamais faite à ce jour. Je ne veux démotiver personne, au contraire, et je suis uniquement dans le partage de mon expérience. Je pense que le timing n'était pas adéquat. Je n'étais pas encore prête à affronter tout cela sous cet angle. Sûrement qu'aujourd'hui, en le refaisant, je porterai un nouveau regard. Et avec le recul maintenant, je me rends compte à quel point j'étais en fragilité à cette période-là. Alors je me félicite d'autant plus d'avoir eu le courage de le faire. À la suite de cela, j'ai préféré opter pour une alternative plus douce qui me convient mieux, la sophrologie. Une amie me propose à l'époque de me rendre à une initiative locale près de chez nous. Nous y allons. Cela me fait un bien fou. Se concentrer sur ma respiration, projeter des situations confortables et sécurisantes, mieux gérer mes émotions, faire le vide. Je ressens tellement de sécurité et de confort. Cela faisait longtemps. La sophrologie m'a grandement aidée à m'apaiser. Au fil du temps, tout se reconstruit et, aidée par ces thérapies, je bâtis un nouveau monde. En parallèle, ma vie se construit au gré des rencontres, de mon travail, etc. Les rencontres forgent aussi, les bonnes comme les mauvaises. J'ai la chance d'en faire de merveilleuses. Être bien entourée aide énormément, car le soutien et la bienveillance sont essentiels. J'ai bien sûr fait également de mauvaises rencontres, et il m'a été difficile de parfois rompre avec des personnes toxiques. Mais les occasions de rupture se sont provoquées d'elles-mêmes. Je pense même qu'il m'est arrivé inconsciemment de générer des situations où cela semblait une évidence afin de me faciliter le travail. Je n'avais pas, à cette époque, la force d'affronter directement les sujets. Et cela me faisait du bien de me préserver. Je me suis créé ma bulle de protection, refuge dans le travail, création de liens amicaux sains, soutien de ma famille, relations amoureuses sereines. Ces années m'ont permis de me reconstruire et de guérir mes blessures. La conscience fait son travail et j'arrive à me remettre de tout cela. Cependant, parfois aujourd'hui encore, des choses de l'inconscient remontent à la surface. Des cauchemars, de l'anxiété, de l'angoisse, des troubles alimentaires. Et c'est là que récemment j'ai encore pris conscience qu'il restait du chemin à parcourir, plus inconscient, pour vraiment finir le travail et venir sécuriser mon corps à la source de mes pensées. J'ai essayé le Reiki, la naturopathie, sans succès durable. L'hypnose est actuellement mon meilleur outil, grâce à mon thérapeute très compétent. J'ai démarré l'an dernier et j'en suis très satisfaite. À voir sur la durée comment je vis cela. J'évite de multiplier les thérapies et je souhaite surtout m'écouter, moi. Beaucoup de gens, bienveillants par ailleurs, conseillent moult et moult méthodes parce qu'elles leur conviennent ou qu'elles conviennent à un de leurs amis. Mon conseil serait de te dire de t'écouter. Oui, il faut être à l'écoute de ce qui existe. Ta libération émotionnelle est sûrement cachée au sein de l'une de ces solutions. Mais le faire trop tôt ou masquer le travail à travers un flou de méthodes peut être contre-productif. Il faut le vivre pour savoir et voir ce qui te correspond. Trouver un exutoire pour alléger sa souffrance et partager ses maux fut très salvateur pour moi. Je pense que je ne t'apprends rien en te disant cela, car si tu me suis, tu as bien compris l'importance de la musique pour ma reconstruction. Je terminerai sur le fait qu'au-delà de tout ce que je te partage ici, mes lectures, certains comptes sur les réseaux sociaux, certains films ou encore certains échanges avec des personnes passées par là se sont avérés très utiles sur mon chemin de guérison. Cette prise de conscience, d'avoir les clés de ma vie entre les mains, je la chante dans ma chanson « Run », rythmée par un dynamisme porteur d'énergie positive. J'ai écrit cette chanson en 2015, date à laquelle je composais encore majoritairement en anglais. De cette façon, je préservais un semblant de jardin secret. Les gens portant généralement peu d'attention aux paroles, encore moins lorsqu'il ne s'agit pas de leur langue maternelle. Écrire et chanter en français fut une des premières étapes de mon envie d'extérioriser tout cela aux autres. Tu peux retrouver mes titres sur toutes les plateformes de musique, qu'il s'agisse de Spotify, Deezer, Apple Music et les autres. Merci d'être là, de prendre le temps de m'écouter et de t'intéresser au sujet. J'espère que d'autres suivront ton exemple et que nous serons de plus en plus nombreux à nous sentir concernés par ce fléau. Épisode suivant, c'est le mois prochain. Je t'attends patiemment et j'ai hâte d'avoir tes retours et premières impressions. Retrouve-moi sur mes réseaux sociaux Instagram, Facebook et TikTok, Anna Madé. À très vite.